est-ce que le père Philippe Capel-Dumont, qui est philosophe et théologien, comment est-ce qu'il aborde la question de Dieu en tant que philosophe?
Alors, la question de Dieu est une question posée depuis Platon et Aristote. D'ailleurs, une chose qu'on ne sait pas toujours, c'est que le mot théologie est inventé par Platon. Le mot théologie lui-même, c'est un discours sur Dieu. Donc, tous les philosophes, Platon, Aristote, les stoïciens, évidemment saint Augustin, mais si je passe la grande période médiévale où les philosophes sont théologiens et théologiens philosophes le plus souvent, Descartes s'est posé la question de Dieu, et même dans la méditation, dans la troisième méditation métaphysique, a voulu démontrer l'existence de Dieu. Ensuite, on a Pascal. Là, pour le coup, en citant Pascal, vous citez une des plus grandes figures paradigmatiques, n'est-ce pas?
Mais moi, je voudrais aujourd'hui citer le père Philippe Capel-Dumont et sa question de Dieu. Comment est-ce que vous avez, au fur et à mesure de votre carrière, abordé cette question de Dieu? Quand je vous entends, professeur, on a l'impression que le fil rouge de votre vie, c'est la question de Dieu, entre la philosophie et la théologie.
Alors, je vous remercie de vous poser une question très importante et je vous remercie beaucoup de me donner l'occasion de dire quelques mots, effectivement, à cet égard, puisque j'appartiens à une génération pour laquelle la question de Dieu comme telle n'était pas posée, même dans une certaine pastorale ecclésiale. On parlait volontiers de Jésus, Jésus l'ami, etc. La question de Dieu comme telle était biffée, en quelque sorte. Et j'ai toujours considéré, pour ma part, que si cette question n'était pas posée, la question de Dieu, alors le reste, l'ensemble de l'édifice pouvait s'écrouler. C'est-à-dire, est-ce que nous avons un père, oui ou non ? Nous ne sommes pas simplement là pour vanter les mérites de l'humanisme intégral ou l'humanisme le plus honorable de la Renaissance. Nous sommes là pour confesser, en effet, que nous sommes les héritiers d'une mémoire, du don et de la révélation, et que s'il n'y a pas de père et de paternité, le mot étant évidemment métaphorique, évidemment, au-delà du masculin et du féminin, comme l'explique très bien d'ailleurs Benoît XVI, cette paternité, c'est le chiffre de notre existence. C'est-à-dire, est-ce que nous avons une existence comme fils ou pas ? Alors si nous n'avons pas, il n'est même pas utile de nous parlons dans ces conditions de l'évangile comme nous parlons de n'importe quel traité de morale ou d'appel humaniste. Et il en est d'autres dans les traités indiens, hindous. Enfin, nous avons des équivalents de sagesse. La question est brutale. Autrement dit, dès que l'on pose la question de Dieu, on met le doigt là où ça fait mal. Et on peut dire que ma génération a voulu y voir clair. Alors, de fait, vous avez raison de dire cela. J'ai donc une partie de mon travail a consisté à élucider, à défaut d'éluder, d'élucider la question de Dieu par tous les moyens. Alors, quand je parle de la tradition philosophique, c'est parce que j'ai toujours voulu attester, mais d'autres l'ont fait avant et mieux que moi, que la tradition philosophique n'a jamais biffé cette question en réalité. La tradition théologique non plus.
Père Philippe Capel-Dumont, pourquoi la philosophie ?
J'ai enseigné la philosophie avant d'être prêtre. J'ai toujours considéré, en effet, qu'il fallait marcher sur ses deux pieds, c'est-à-dire la foi et la raison. Comme le dit d'ailleurs Fides et Ratio, en reprenant plutôt les images des deux ailes, je me souviens très très bien quand j'étais lycéen ou jeune étudiant, j'ai étudié la philosophie à la Sorbonne dans les années 70, j'ai eu Lévinas comme professeur et d'autres, Pierre Aubanc, donc de très grands, et j'étais croyant. J'ai toujours considéré qu'il n'était pas possible d'avoir quelque effet ou même d'être conséquent sans intégrer toute l'exigence de la raison dans l'affirmation croyante. Et donc j'ai toujours considéré qu'il fallait marcher sur ses deux pieds, non pas être unijambiste. Alors il y a l'unijambiste croyant et il y a l'unijambiste rationaliste. Je veux dire par là, il faut avoir ces deux jambes. Même d'ailleurs, le croyant exige la deuxième jambe. On le voit bien dans Fides et Ratio. Donc, toute ma vie a considéré à trouver une sorte d'équilibre dans une marche, si vous voulez, avec ces deux jambes et tout mon travail se résume ainsi, oui.
Et vous avez, entre autres, parmi les nombreux livres que vous avez publié une série qui s'appelle « Philosophie et théologie ». Vous venez de paraître le tome numéro 4, qui est le dernier, « Philosophie et théologie à l'époque contemporaine ». Qu'est-ce que c'est que cette série ?
En 1995, j'ai proposé aux éditions du CERF de créer une collection qui s'appelle « Philosophie et théologie ». Nous sommes aujourd'hui à près de 50 volumes, dont l'objet était d'attester dans la culture française et au-delà que toute la tradition philosophique est incompréhensible sans la relation à la théologie. Et si vous voulez comprendre Descartes, il faut faire référence à la théologie, même scolastique. Si vous voulez comprendre même Luther, vous devez aussi vous référer à une partie de la philosophie, même quand il la conteste. Quand vous voulez lire Hegel, vous devez... Voilà, toute la tradition philosophique depuis 20 siècles, 21 siècles, est connectée à la tradition théologique et inversement.
Toute la tradition philosophique est connectée à la théologie.
Vous avez raison. On a souvent l'impression que la chose est unilatérale, savoir que la théologie doit beaucoup à la philosophie, et on oublie l'inverse, c'est que sans la théologie, la philosophie ne serait pas ce qu'elle est. Il faut même aller jusqu'à dire que sans les grands médiévaux, Thomas d'Aquin, Bonaventure, je pense surtout Thomas d'Aquin le plus grand, la philosophie moderne n'aurait jamais était ce qu'elle est. Donc on peut dire même que la théologie, c'est-à-dire l'acte systématique du discours croyant, a engendré en son sein la possibilité d'un discours qui est la philosophie. Et nous devons tous, et pas seulement les croyants, beaucoup à Thomas d'Aquin et à la scolastique, dans la mesure où il a ouvert un espace à la rationalité philosophique où ont pu naître les Descartes, les Fichte, les Hegel, etc. Et même aussi les philosophes non-croyants. Et donc, nous devons reconnaître nos dettes, et à l'égard de la théologie, à l'égard de la philosophie. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, je suis très frappé de voir que la génération philosophique actuelle est très sensible à cela. C'est-à-dire que je pense même quelqu'un qui est mort il n'y a pas si longtemps, Michel Henry, au fond, est un homme qui est un phénoménologue, philosophe, mais qui en même temps se nourrissait de données théologiques, sans être théologien, mais se nourrissait de données théologiques. Aujourd'hui, la même chose avec bien d'autres.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette anthologie ?
Pour la première fois, nous avons donc produit 5 volumes avec 90 collaborateurs. Nous avons mis 10 ans pour l'écrire. 5 volumes qui retracent, qui rassemblent tous les textes, depuis Platon jusqu'à Ricoeur, qui témoignent très explicitement de la relation philosophie-théologie. C'est-à-dire qu'on montre des textes d'auteurs, qu'ils soient philosophes ou théologiens, pour lesquels la relation philosophie-théologie est essentielle. Donc on refait le parcours, hein, Platon, Aristote, les stoïciens, Épicure, enfin toute la tradition même de l'Antiquité tardive, des Grecs tardifs, de la patristique évidemment. On oublie aussi que les pères comme Justin étaient philosophes, saint Augustin se disait philosophe, et tout en écrivant des traités sur la sacramentaire. Évidemment, tous les médiévaux pratiquent le lien philosophie-théologie, mais aussi les modernes, et jusqu'aux contemporains. Vous ne pouvez pas comprendre des philosophes importants comme Husserl, comme Heidegger, comme Bergson, Gabriel Marcel, Étienne Gilson, et plus récemment, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, bien que ce ne soit pas de la théologie chrétienne, mais de la théologie juive. Vous ne pouvez pas comprendre. Et même Derrida, lui-même, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec lequel j'ai eu beaucoup de conversations en colloque ou privément, était un homme qui était fasciné par la question religieuse. Nous avons hérité une relation qui existe, mais qu'il fallait faire apparaître. Et donc ces 5 volumes ont pour objet de faire apparaître la ténacité d'une relation qui a été trop oubliée, mais qui est structurante de l'espace occidental. C'est-à-dire toute la pensée occidentale doit être lue comme étant le résultat de cette relation entre philosophie et théologie, bien sûr aussi avec les sciences et avec l'esthétique. Mais centralement, la pensée occidentale a été structurée par cette relation.
Père Philippe Capel-Dumont, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter pour terminer cette rencontre?
Eh bien, que la foi chrétienne et partant catholique n'a rien à redouter d'un dialogue avec la culture telle qu'elle est, au contraire. Probablement sommes-nous en train de vivre une nouvelle étape dans les relations entre le catholicisme et les cultures, où plus que jamais, le catholicisme est en mesure d'attester de ses titres de crédibilité. Plus que jamais, il est en capacité de témoigner d'une vérité dont il est porteur depuis 20 siècles, mais cette vérité n'est pas une vérité privée, une vérité régionale, une vérité personnelle à éprouver simplement dans le secret de sa vie privée. C'est une vérité publique, c'est une vérité qui tient le dialogue avec les sciences, avec la philosophie, avec les arts, et donc je dirais, le chrétien est un spécialiste de l'espérance. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'objet dans l'espérance. Et donc, notre espérance, c'est que la vérité ne peut pas nous mentir. Et la vérité communiquée dans le Christ, c'est une vérité universalisable. Une vérité pour toutes les nations. Et donc, il faut entendre le mot « toutes les nations » avec toute sa portée métaphorique, c'est-à-dire avec tous les secteurs de l'existence, tous les domaines de culture, toutes les sciences. Et donc, nous devons entrer en conversation critique, évidemment, et témoigner chemin faisant de la vérité qui est une vérité lumineuse. Saint Augustin disait « nous aimons la vérité quand elle s'annonce, mais nous la détestons quand elle nous dénonce ». Effectivement, la vérité fait mal, et elle nous fait mal. Nous, lorsque nous sommes dans la quête de la vérité, il faut savoir qu'inévitablement, à un moment, nous allons devoir nous convertir et changer. Au fond, la seule chose que nous ayons à faire en tant qu'intellectuels catholiques, c'est d'avoir la plus grande confiance dans les capacités d'intelligence que le Créateur a déposées en nous.
Merci.